Il est 18h à Kinshasa et 19h à Goma. Bienvenue à cette grande édition de la Fréquence de la Paix. Merci de votre fidélité et bonne condition d'écoute.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, en Ituri, la fréquentation du centre de traitement d'Ebola de Niakoundé reste faible et plusieurs prestataires de santé n'ont toujours pas repris leurs activités. Malgré le renforcement des dispositifs de sécurité par les FARDC de la MONUSCO, la peur demeure au sein de la population après les récentes violences, vous l'attendrez. Autre temps fort de cette édition, au sud Kivu, un gorille des Graouers a été abattu dans le parc national des Kahuzi-Biega. La direction du parc condamne cet acte de braconnage et annonce l'arrestation du principal suspect, désormais entre les mains de la justice. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invité Djunga Mashaka Bernard, sous-préfet de la sous-division urbaine de l'éducation de Kasusu au Maniema. À l'approche de la rentrée scolaire, il revient sur le bilan de l'année écoulée, les résultats obtenus et les défis qui attendent les secteurs de l'éducation. Voilà pour les principaux titres et les détails dans un instant. Christian Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En Ituri, la fréquentation du centre de traitement d'Ebola demeure faible et une partie du personnel soignant n'a pas encore repris ses activités à Niakoundé, à 45 km au sud-ouest de Bounia, quelques jours après les violences qui ont secoué la région. Selon l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, et le Conseil provincial de la jeunesse, la psychose persiste au sein de la population qui redoute de nouveaux incidents. Les FARDC et la MONUSCO ont renforcé leurs dispositifs de sécurité pour rassurer les habitants et favoriser la reprise des activités. Isaac Raymond.
Progressivement, Niakoundé, à Marabo et dans les localités voisines, après les violences survenues le 15 juillet à la suite de la mort du chef de la milice FPIC. Selon l'UNADI, les activités économiques et sanitaires ont repris, même si la situation reste marquée par une certaine psychose. Lors des affrontements, plusieurs habitants ainsi que des membres du personnel de santé engagés dans la riposte contre Ebola avaient quitté la zone par mesure de sécurité. L'UNADI indique que 4 patients atteints d'Ebola qui avaient fui les centres de traitement ont été ramenés par leurs familles et des membres de la communauté afin de poursuivre leur prise en charge. En revanche, la fréquentation du centre de traitement reste encore faible et certains agents de santé, notamment des partenaires internationaux, ne sont pas encore revenus. L'UNADI et le Conseil provincial de la jeunesse invitent les populations déplacées à regagner leur village et appellent les personnels soignants à reprendre ses activités, estimant que les conditions de sécurité se sont améliorées sur le terrain. Les FARDC ont renforcé leur présence pour assurer la protection des populations et des infrastructures. De son côté, la MONUSCO a installé une base opérationnelle mobile à Marabo afin de renforcer la sécurité dans cette partie du territoire d'Iromo. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours dans les domaines sanitaires, dans la province voisine du Nord Kivu, une autre alerte concerne cette fois les réserves de sang. À Beni, les besoins en produits sanguins restent importants alors que les stocks diminuent progressivement. Les centres de transfusion sanguine appellent à une mobilisation des donneurs bénévoles, notamment en cette période des vacances scolaires marquée par une baisse des dons. Cette situation inquiète le responsable sanitaire qui craignent de difficultés pour prendre en charge les patients nécessitant une transfusion en urgence. Les précisions de Marcel Papimoukeba.
Chaque jour à Beni, les besoins en produits sanguins restent importants pour les blessés, les femmes confrontées à des complications d'accouchement, les enfants souffrant d'anémie et d'autres patients. Mais, depuis plusieurs semaines, les réserves diminuent et les centres de transfusion sanguine peinent à approvisionner les structures sanitaires de la région. Selon son responsable, le docteur Vianney Kambere, cette pénurie pourrait affecter la prise en charge des malades.
La grande cause est l'absence des donneurs réguliers. Les donneurs que nous rencontrons assez souvent, ce sont les élèves qui sont en vacances. Nous sommes vraiment en difficulté. Ça fait qu'on va continuer à déplorer les cas de décès par manque de produits sanguins. Or, dans la période d'épidémie d'Ebola ici, nous savons que le traitement se base beaucoup plus sur les signes et les symptômes que le malade peut présenter. Si on trouve que le malade est déficient en produits sanguins, il faudrait que les produits sanguins puissent être là disponibles.
Les centres de transfusion sanguine de Beni appellent à une mobilisation des donneurs bénévoles pour reconstituer les réserves. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
Pendant ces temps, dans le domaine de la conservation de la nature, le Parc national des Kahuzi-Biega, PNKB en sigle, dénonce un nouvel acte de braconnage. La direction du PNKB condamne l'abattage d'un gorille des graueurs, survenu le 10 juillet dernier dans la zone marécageuse de Moussissi, en territoire des Kalehe, au site Kivu. Dans un communiqué publié le 19 juillet, le parc indique que l'auteur présumé de cet acte a été arrêté, puis transféré devant les instances judiciaires des Walikale au nord Kivu. Les papiers de Ronelly Timonera, rendus par Daniela Awa.
Selon la direction du PNKB, cet incident porte un grave préjudice à cette espèce protégée ainsi qu'au patrimoine naturel de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué, le parc rappelle que le gorille de Grauer bénéficie d'une protection intégrale conformément à la législation congolaise en vigueur. Le PNKB déplore toutefois que la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis février 2025 ait entraîné la suspension des patrouilles de surveillance dans plusieurs secteurs du parc. Cette situation réduit considérablement les capacités d'intervention des éco-gardes et les efforts de protection de la faune à l'intérieur de cette aire protégée. Depuis plusieurs mois, des acteurs de la société civile et des défenseurs de l'environnement au sud qui vous tirent la sonnette d'alarme sur l'exploitation illégale de certaines parties du parc. Ils dénoncent notamment le développement d'activités agricoles, de l'élevage ainsi que l'exploitation minière à l'intérieur de cet espace protégé.
Au Nord Kivu également, une opération de lutte contre le trafic des espèces protégées a permis la saisie de 30 kg d'ivoire et d'une peau des lions à Beni. L'opération menée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature et ses partenaires a conduit à l'arrestation de 3 présumés trafiquants. Pour l'ONG Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, cette affaire démontre l'urgence de renforcer la lutte contre le braconnage dans un contexte sécuritaire fragile. Maître Olivier Ndoholé, au micro de Bernanel Nyangui.
Encore une fois, cette saisine démontre qu'il y a un lien entre le trafic illicite, l'exploitation de notre biodiversité et la fragilité du territoire dans le contexte des conflits et des guerres. Parce que tous ces trafiquants, leur objectif, c'est juste de se faire l'argent à travers des commerces illicites. Et à contrepartie, tous les groupes armés se nourrissent de ces activités illicites. Mais également, on ne doit pas seulement agir en saisissant les spécimens, mais l'essentiel serait de prévenir pour que ces spécimens, par exemple les éléphants abattus, les lions tués, je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler en amont pour réduire les braconnages, et cela passe par cette collaboration entre communautés, société civile, pouvoir judiciaire, mais aussi forces de sécurité, les services aux frontières, les services aéroportiers puissent être vigilants et prévenir des cas futurs de trafic, mais aussi des braconnages.
Dans la même province, plus de 10 000 jeunes de la région de Grand Lac réaffirment leur engagement en faveur de la paix et du vivre ensemble. C'était à l'issue de la 15e édition du Forum régional de jeunes organisé du 16 au 20 juillet à la paroisse Rougabo, située au chef-lieu du territoire de Rutshuru par les diocèses catholiques de Goma. Plus de détails avec Bernadette Nyangui encore une fois.
Réunis pendant 4 jours autour du thème « Jeunes, sois témoin de l'espérance et artisan de paix », les participants venus des diocèses de Goma, Bukavu en RDC ainsi que de Nyundo et Byumba au Rwanda ont réfléchi au moyen de renforcer la paix et le développement durable dans un contexte marqué par l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Dans son allocution de clôture, l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willy Ngumbi, a exhorté les jeunes à rejeter le tribalisme, la drogue, l'abus d'alcool et la corruption. Il les a invités à devenir des artisans de réconciliation, de pardon et de la non-violence, à l'exemple du bienheureux Floribert Bonachoui. Face aux épreuves que nous traversons, nous pouvons tout attendre des dieux, mais nous avons aussi notre part à faire pour construire la paix dans la région, a-t-il déclaré. Organisé à l'école primaire Rougabo de Rutshuru Centre, cette 15e édition du Forum régional des jeunes catholiques a servi de cadre de formation et d'échange sur les défis sécuritaires, économiques et sociaux qui touchent la région des Grands Lacs.
À Kinshasa, les travaux d'un ouvrage attendu depuis plusieurs mois viennent de démarrer. Les habitants de Mongafula et de Lancélé pourront bientôt retrouver une liaison directe grâce à la construction du nouveau pont sur la rivière Lukaya. L'ancien ouvrage s'était effondré en avril 2025, perturbant les déplacements et les échanges entre plusieurs quartiers. Les travaux prévus pour une durée de 10 mois sont exécutés par l'entreprise Safrimex. Plus de détails avec Blaise Nogana Mayanda.
Une fois achevé, ce pont facilitera la circulation de personnes et de leurs biens ainsi que de véhicules d'une rive à l'autre. Cet ouvrage d'environ 100 mètres de long reliera directement des zones stratégiques, notamment les quartiers Lembaimbu et Verman et d'autres secteurs de l'est de la capitale, entêlés, brisant ainsi l'isolement géographique. Selon les témoignages des populations riveraines, cet édifice permettra également aux habitants, aux écoliers et aux travailleurs de traverser la rivière en toute sécurité, évitant l'usage des passerelles de fortune périlleuses, comme indique Paul Chinumbu Kantola, qui salue la concrétisation de ce projet.
On était un peu dubitatif. Voilà que c'est du concret. Je remercie le ministre qui ne lésine pas sur les moyens pour reconstruire non seulement notre belle ville de Kinshasa, mais le Congo entier est un grand chantier.
Les travaux de construction de cet édifice ont été lancés par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, John Banza, à la suite des cris d'alarme de population de ces secteurs de la capitale. Le pont jeté sous la rivière Lukaya avait été entièrement emporté par les pluies diluviennes qui se sont abattues les 5 et les 6 avril 2025. Cette coupure prolongée continue toutefois de perturber lourdement la mobilité quotidienne des riverains, transformant les passages en un véritable parcours des combattants.
Dans le Haut-Katanga, les activités commerciales ont été perturbées ce lundi au marché Musée Laurent-Désiré Kabila de Lubumbashi. Les vendeurs sont descendus dans la rue pour protester contre un projet présumé de démolition de ces lieux de négoce. Ils disent craindre de perdre leur principale source de revenus et demandent de garanties auprès des autorités provinciales. Le point avec Paulin Munanga.
Le marché Musée Kabila, construit en 1997, est l'un des plus grands marchés de Lubumbashi. Il est situé sur l'avenue Lumumba au centre-ville et compte plus de 17 000 vendeurs à en croire certaines sources. Les commerçants scandaient des chansons brandissant des pancartes dénonçant la décision de démolition du marché Musée Laurent-Désiré Kabila. Ils se sont rendus à l'assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils ne sont pas contre la construction des marchés modernes, mais ils proposent aux autorités de construire ce nouveau marché sur un autre site au lieu de détruire le marché Musée Kabila. Devant les questeurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ils ont lu leur mémorandum dans lequel ils demandent aux élus du peuple de trouver une solution à ces dossiers.
Le marché Musée Kabila compte plus ou moins 17 000 vendeurs qu'ils ont investis dans leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille par manque d'emploi. Sa destruction occasionnera la perte de milliers d'emplois et une grande précarité pour des centaines de ménages. Nous demandons l'ouverture d'un dialogue entre les autorités provinciales et les représentants des commerçants afin de trouver un terrain d'entente.
Le questeur Ahmed Mukuna les a rassurés que leurs revendications seront examinées au sein de l'organe délibérant. Aucune réaction pour le moment de la mairie de Lubumbashi. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï Central, le programme des Nations Unies pour le développement appuie la police nationale congolaise dans le renforcement des capacités de ses agents. 60 officiers de police judiciaire, dont 10 femmes, viennent d'achever une formation de 20 jours à Kananga sur les techniques d'enquête, procédures pénales, droits humains, lutte contre la violence basée sur le genre et déontologie policière. Elle intervient à la suite de nombreuses insuffisances constatées dans la conduite des enquêtes et les traitements des dossiers judiciaires. Le reportage d'André Katendeng à la Mouloumé.
Pendant 20 jours, les 60 officiers de la police judiciaire ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur plusieurs thématiques essentielles à l'exercice de leurs fonctions. Au programme, techniques d'enquête, procédures pénales, droits humains, lutte contre les violences basées sur le genre et déontologie policière. Alain Kateta, chef du bureau du PNUD à Kananga, explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police. Selon lui, elle vise à améliorer la qualité du travail des officiers des polices judiciaires, à renforcer l'efficacité du système judiciaire et à consolider l'état de droit.
On a constaté qu'il y a plusieurs officiers des polices judiciaires qui ont beaucoup de difficultés dans les enquêtes qu'ils sont en train de mener.
Au terme de cette formation, les participants affirment avoir acquis de nouvelles connaissances et des outils pratiques qu'ils comptent mettre au service de leur mission. Jacqueline Pouilly.
On avait un peu de manquement, mais à partir de cette formation, ça nous a un peu aidé à connaître d'autres choses. Comme on a renforcé les capacités, nous allons faire notre travail en bonne et due forme.
Présente à la cérémonie de clôture, les autorités judiciaires ont invité les bénéficiaires à mettre en pratique les enseignements reçus, exercer leurs fonctions dans le strict respect des droits des citoyens. Kananga, André Katendeng na Mouloumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En France, le Sénat examine ce mardi une proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée scolaire. Le jeune concerné disposerait ensuite de 4 mois pour supprimer leur compte existant. Cette initiative vise à mieux protéger les mineurs contre le risque lié aux plateformes numériques, notamment les cyberharcèlements, les contacts avec des adultes malveillants et l'exposition à certains contenus dangereux. Si elle est adoptée, la France pourrait devenir l'un des premiers pays de l'Union européenne à instaurer un âge minimum légal pour accéder aux réseaux sociaux. Des interrogations demeurent toutefois sur l'application effective de cette loi et les moyens d'empêcher le jeune de contourner les restrictions.
L'invité.
Notre invité est Djunga Mashaka Bernard, chef de la sous-division urbaine de l'éducation de Kasuku, dans la province du Maniema. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, il dresse le bilan de l'année scolaire écoulée, revient sur le résultat obtenu et évoque le défi à relever pour améliorer la qualité de l'enseignement et la prise en charge des élèves. Djunga Mashaka Bernard s'entretient avec Florence Kizalunga.
Djunga Mashaka Bernard, bonjour.
Oui, bonjour Madame Florence.
Comment évaluez-vous vos activités de l'année passée, c'est-à-dire 2025-2026?
Oui, Madame, les activités 2025-2026 dans notre entité de la sous-division urbaine de Kasuk, nous évaluons avec une satisfaction du fait que on a respecté les calendriers scolaires et on a respecté aussi les instructions. Du point de vue résultat, je crois que nous avions fait un score de 80%, cela prouve que nous sommes dans le bon. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi des problèmes de défis. Nous avions constaté que nous avons encore les salles de classe pléthoriques, et ce qui fait aussi l'incompréhension à certains enfants d'assimiler la matière. Et cela est dit, c'est en rapport avec les induits de la gratuité. Voilà le pourquoi nous faisons que toujours plaider aux autorités, afin qu'ils puissent aussi penser aux induits de la gratuité dans notre entité de la sous-division urbaine de Kasuk. C'est-à-dire augmenter encore le nombre de salles de classe, changement de structure et création encore d'autres écoles.
Comment avez-vous alors planifié les activités pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2026-2027 dans votre sous-division?
Les activités 2026-2027, nous sommes en train de planifier tout en respectant les thèmes qui nous a été envoyés par les autorités, c'est-à-dire nous voulons planifier nos activités en rapport avec l'éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen. Nous voulons informatiser le système éducatif au Maniema. Nous ne voulons plus que les enfants du Maniema restent en retard en rapport avec les outils informatiques. Le monde d'aujourd'hui est devenu numérique. Voilà là où nous sommes en train de planifier nos activités pour l'année scolaire 2026-2027.
Parlant de l'informatisation de vos écoles dans les systèmes, alors vous avez les outils informatiques qui pourront vous permettre réellement de réaliser cette vision?
Non, madame, il y a vraiment carence, je peux dire, des outils informatiques dans nos écoles. Raison pour laquelle nous plaidons aux partenaires éducatifs et au gouvernement aussi central de nous parvenir en aide. Et pourquoi pas le gouvernement aussi provincial? Parce que nous avons plus ou moins 318 écoles dans notre entité et vous trouverez que il y a vraiment une carence là criante des outils informatiques. C'est pourquoi nous envisageons pour l'année qui commence d'ici là, pour que nous puissions aussi chercher des moyens par-ci par-là et que les partenaires aussi qui nous suivent pour le moment de nous parvenir en aide pour que l'éducation aussi dans notre entité soit au rendez-vous de la réalité numérique.
Avant que les partenaires ne vous viennent en aide, vous-même, est-ce que vous fournissez des efforts pour avoir quand même les outils informatiques?
Oui, évidemment, madame. Mais vous savez, la vie des Kindu, vraiment, il y a un sérieux problème, étant donné que le peu là que le gouvernement aussi envoie en termes de frais de fonctionnement n'arrive pas à couvrir tous les besoins nécessaires. Vous savez, dans l'éducation, nous avons besoin aussi des manuels dans certaines écoles. Nous avons aussi besoin aussi des renforcements des capacités de personnel enseignant, c'est-à-dire former les enseignants du degré élémentaire. Nous sommes en train d'envisager aussi cette activité pour cette année. C'est un coût qui va nous coûter énormément cher. Voilà le pourquoi nous faisons toujours recours aux partenaires pour qu'ils puissent vraiment nous appuyer afin que cette activité et les outils informatiques ne fissent que le minimum dans certaines écoles.
Est-ce que vous pouvez garantir aux parents que l'année qui va commencer, les enfants vont étudier dans de bonnes conditions?
Effectivement, c'est ça notre cheval de bataille, madame. Si vous regardez bien, nous sommes en train de nous forcer du point de vue construction des écoles et je crois que l'année 2024-25, le gouvernement provincial a doté quand même des tôles et nous avions aussi bénéficié dans nos 4 écoles, dans notre entité. Nous avons aussi autre problème, certaines écoles qui n'ont pas de propres bâtiments, de terrain. Il y a encore d'autres écoles qui continuent à loger dans des maisons d'habitation. C'est aussi un problème que nous faisons aussi vraiment des plaidoyers auprès des autorités afin qu'ils puissent aussi donner à ces écoles des terrains pour leur construction afin que les enfants étudient dans de très bonnes conditions.
Djunga Mashaka Bernard, merci.
C'est moi qui vous en remercie, Madame Florence.
Fin de cet entretien avec Djunga Mashaka Bernard, chef de la sous-division urbaine de l'éducation de Kasusu dans la province du Maniema. Il répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est ici que prend fin cette grande édition de 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination de Richard Junior Kamunga avec Jean-Claude Siala à la mise en onde. Retrouvez ce journal en podcast sur notre site www.radiocapi.net ainsi que sur les différentes plateformes numériques. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ces mardi.